Frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, une histoire que nous connaissons bien, au fond nous les connaissons toutes, et chaque dimanche au fond c'est toujours un rappel de ce que nous connaissons, mais comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire, et c'est toujours salutaire que nous puissions chaque dimanche nous rafraîchir la mémoire de choses que nous connaissons, parce que nous sommes, comme disait l'apôtre Jacques, des auditeurs oublieux, et même si nous avons entendu 100 fois le même message, nous sommes toujours prêts à oublier les promesses de Dieu, et il est bon chaque fois de nous rappeler ce que la parole de Dieu nous demande de faire et ou d'être. 1 Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva et alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé ». « Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui, appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai, je le finirai. Je lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie. Mais Élie l'appela et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée ? Ne m'en cache rien, car Dieu... Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher, et il y dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. Notre histoire se déroule en un temps où Dieu parlait peu. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas parler, mais quelque part, Dieu ne pouvait pas parler en ce temps-là. On pourrait se poser la question, mais Dieu ne voulait-il plus parler à son peuple d'Israël ? Je pense plutôt que nous sommes en un temps où le peuple d'Israël avait le cœur vraiment endurci pour entendre la parole de Dieu. Israël, le peuple d'Israël, ne voulait plus entendre cette voix. Il nous est rapporté dans le livre des Juges, au chapitre 21, le dernier verset, un verset qui m'a vraiment frappé. Au verset 25 du chapitre 21, il nous est dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Voilà l'état spirituel du peuple d'Israël en ce temps-là. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de chef, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chaque habitant du pays d'Israël vivait un peu à sa guise. Il y en a qui servaient fidèlement Dieu, il y en a d'autres qui ne le servaient plus, qui allaient voir des dieux étrangers. Le peuple et les serviteurs de Dieu étaient grandement corrompus. Et je pense, sans vraiment trop me tromper, que nous sommes dans une époque qui ressemble étrangement à l'époque où vivait Samuel. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui ne veut plus entendre parler de Dieu, où Dieu a du mal à faire entendre sa voix. On pense que ce sont les grands de ce monde qui dirigent le monde et qui ont voix au chapitre, et Dieu doit se taire dans son coin. Dieu parle, mais on n'écoute pas. Ce monde vit comme si Dieu n'existait pas, et nous le voyons chaque jour dans tout ce que nous pouvons entendre comme nouvelles à la TV, à la radio, sur les réseaux sociaux. Il est rarement fait mention de Dieu ou des prophéties qui doivent s'accomplir pour la fin des temps. Nous ne voyons rarement le nom de Dieu prononcé. Si on prononce le nom de Dieu, ce n'est sûrement pas dans le bon sens, c'est souvent pour l'insulter ou pour se moquer de lui. Et ce monde vit vraiment comme si Dieu n'existait pas. Et certains disent, dans mes collègues, dans mes amis, dans mes voisins, « Eh, Dieu existe-t-il vraiment ? » S'il y avait un Dieu, beaucoup de choses ne se passeraient pas. On incrimine Dieu des actes de folie des hommes. Et vraiment, le doute est semé dans le cœur de l'homme, parce que Dieu existe-t-il? Et malheureusement, parfois même les chrétiens doutent de Dieu, doutent de son existence, doutent de ce que Dieu peut encore faire au sein de l'Église et dans nos vies. Le cœur de l'homme se ferme de plus en plus à l'amour de Dieu. Et puis, Dieu est-il vraiment si bon? On dit le bon Dieu. Dieu est-il vraiment bon? Les gens se posent cette question-là. Voilà un peu l'état des lieux en Israël et l'état des lieux de ce monde, l'état des lieux de nos églises. Mais revenons à notre sujet de ce matin. Il nous est rapporté que la parole de Dieu était rare à l'époque. Il y avait encore quelques enfants d'Israël pratiquants, à l'instar de la maman de Samuel, Anne, qui a vaincu sa stérilité, car cette femme était stérile, et elle subissait les moqueries de sa rivale, parce qu'à ce moment-là, les hommes pouvaient prendre plusieurs femmes, pour leur plus grand malheur. Ben, c'est vrai, parce que dans les pays où on prend plusieurs femmes, il y a une rivalité, une jalousie entre femmes, c'est déjà mais bon, pour la paix du ménage. Et voilà, l'autre femme d'Elkana avait des enfants, et Anne n'en avait pas, et elle subissait les railleries de cette femme, et elle en souffrait. Et elle l'a priée avec ardeur, afin de voir l'intervention de Dieu. Et Dieu a béni cette femme. Et cette femme, pour remercier son Dieu de lui avoir accordé cet enfant, a consacré cet enfant à l'Éternel. Cet enfant, c'est Samuel qui a été consacré. Elle l'a porté au temple et il vivait avec le sacrificateur Élie. Et c'est vrai que quelques-uns, comme cette femme, servaient Dieu priaient Dieu, mais je crois qu'on pouvait les compter sur les doigts d'une main, ceux qui, en ce moment-là, en Israël, servaient avec fidélité leur Dieu. Et ce Samuel, que nous connaissons bien, était là dans le temple, faisait le service avec le sacrificateur Élie. Et un jour, Dieu appelle Samuel, comme nous l'avons entendu dans cette lecture, car Dieu avait un message à communiquer à Samuel. Et dans son sommeil, il se réveille, il entend qu'on l'appelle Samuel, et bien entendu, il va de soi que Samuel, petit garçon obéissant, pense que c'est Élie qui a besoin de son service. Élie étant vieux, il avait peut-être besoin d'aller faire pipi, qu'il fallait le conduire aux toilettes. Et alors, et Samuel se lève et va trouver le vieil homme. Et nous voyons vraiment que cet homme est physiquement diminué dans sa santé. Et il ne se doute de rien, Élie. Qui aurait pu appeler Samuel? Mais il lui dit non. « Je ne t'ai pas appelé, tu as sûrement fait un cauchemar, retourne te coucher. Va dormir mon petit gamin et on en reparlera demain. » Et notre brave petit Samuel retourne au lit et pour la deuxième fois, cette voix, la même voix appelle Samuel. Et Samuel se dit « Voilà, chien, qu'est-ce qu'il a encore ?» Et il se lève et encore une fois, Élie dit « Mais non, je ne t'ai pas appelé, retourne. » Et Samuel retourne se coucher, comme nous le voyons. Il pense peut-être que Samuel a mangé trop et qu'il a des mauvais rêves comme ça et qu'il entend des voix. Et pour la troisième fois, Samuel entend encore qu'on l'appelle. Il a dit, oh là là là, le vieux, là, il commence à m'énerver. Je vais quand même aller voir ce qu'il a. Franchement, on peut regarder que Samuel était un enfant obéissant. Parce que je vous assure que ça me serait arrivé, je me serais retourné de l'autre côté et j'aurais continué à dormir. Je dis, notre vieux Élie est en train de divaguer, il ne se rappelle plus qui m'a appelé, il fait sûrement Alzheimer. Moi, je reste dans mon lit, mais non. Samuel se lève encore gentiment et il va lui dire, mais tu m'as appelé Élie, mais non, je ne t'ai pas appelé. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans Élie. La pièce tombe, il dit « Ah, il y a quelque chose. Si Samuel vient pour trois fois me trouver croyant que je l'ai appelé, il y a certainement quelqu'un qui l'appelle. Nous sommes quand même dans la maison de Dieu. C'est peut-être Dieu qui veut se révéler à Samuel. » Remarquons que c'était le sacrificateur. Cet homme, en théorie, était un homme servant Dieu. Mais Élie ne réalisait plus que Dieu pouvait encore parler, que Dieu pouvait encore se révéler. Combien de temps s'est-il passé depuis que Dieu lui a parlé pour la dernière fois au sacrificateur Élie? Nous ne le savons pas, mais quand nous voyons sa vie, nous voyons que cet homme n'était plus en relation avec Dieu. Et ce qui m'étonne encore, c'est que Élie n'est même pas étonné que Dieu s'adresse à un petit enfant, alors qu'il pouvait s'adresser à lui. Mais Dieu avait coupé le contact avec cet homme, tellement sa vie et la vie de sa famille étaient devenues très embarrassante pour un serviteur de Dieu. Il semble que ce serviteur de Dieu a perdu toute sensibilité. Où est sa relation avec Dieu? Si nous nous rappelons, j'ai parlé d'Anne, la maman de Samuel, qui priait pour avoir un enfant. Si nous voyons la réaction d'Élie quand il a vu cette femme prostrée pendant des heures en prière, mais elle priait intérieurement, et il pensait que cette femme était ivre, il lui a dit « Mais va cuver ton vin ailleurs !» Il ne se rendait même pas compte que cette femme était en relation avec Dieu, que cette femme souffrait. Il avait vraiment perdu toute sensibilité spirituelle, et elle a dû lui dire « Mais non, je ne suis pas ivre, mais je suis dans la souffrance !» Et voilà, Nous essayons d'avoir un enfant et je prie pour que Dieu nous accorde cette bénédiction. Oui, l'état spirituel de cet homme depuis des années était vraiment déficient. Et je nous pose la question, à nous, peuple de Dieu, à nous, chrétiens du 21e siècle, avons-nous encore entendu récemment la voix de Dieu nous parler? Oui, Dieu nous parle encore. Dieu nous parle chaque dimanche, par exemple, comme je le dis, quand nous venons dans ce culte. Il nous parle quand il y a une présidence, quand il y a une prédication, il nous parle peut-être en une conversation privée entre frères et sœurs. Dieu nous parle en semaine quand nous lisons sa parole. Dieu nous parle par des événements qui nous semblent anodins. Dieu nous parle. Mais sommes-nous sensibles à sa voix? Sommes-nous sensibles à sa révélation? Ou alors ça nous passe au-dessus de la tête? Ou alors nous disons, ben, si c'est un tel qui prêche, moi je ferme mes oreilles. Je n'écoute pas. Ah, c'était peut-être le jour où le Seigneur avait décidé de vous parler, tant pis pour vous. C'est malheureux. Nous sommes quand même dans la maison du Seigneur et Dieu veut se révéler d'une façon ou d'une autre. Dieu a toujours quelque chose, un petit mot, pour chacun d'entre nous. J'ai dit le dimanche dernier, si vous vous rappelez, que Dieu nous parlait. Alors soyons attentifs. Car il nous parle de plusieurs manières. Cet homme ne devait-il pas se tracasser du fait que Dieu ne s'adressait plus à lui? Tracassons-nous, frères et sœurs, si Dieu ne nous parle plus, si quand nous lisons sa parole, ça nous passe au-dessus de la tête. Quand nous venons au culte, nous venons parce que, quand même, on va nous téléphoner en semaine. Il n'était pas venu dimanche, hein. Alors, je viens. Non, ce serait triste. Ce serait triste que nous refusons vraiment d'entendre la voix de Dieu. Ce serait triste que nous fermons nos cœurs, nos oreilles à la voix de Dieu et que nous ne voulons plus, que Dieu n'arrive plus à nous parler comme Élie. Frères et sœurs, si nous nous trouvons ce matin dans le même état qu'Élie, dans le même état spirituel, où Dieu n'arrive plus à nous parler, où nous n'arrivons plus à entendre sa voix, il est grand temps pour nous de nous remettre en question et de revoir notre situation spirituelle. Il y a une chose qui me frappe, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte, je rappelle que Samuel vivait avec le sacrificateur dans la maison de Dieu, mais au verset 7, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est pour cela que Samuel pense que Élie l'appelle. Mais il est quand même remarquable de lire ce passage. Samuel vivant dans la maison de Dieu avec le sacrificateur Élie et de ne pas connaître Dieu. Sa maman l'a placé là-bas pour qu'il soit consacré à Dieu. Et Samuel ne connaissait pas Dieu. Quel enseignement, je me pose la question, quel enseignement Élie le sacrificateur apportait à Samuel? Quel était l'état, je dis l'état spirituel, mais l'état de sa vie privée? Et nous voyons dans les chapitres précédents que c'était lamentable. Anne confie en toute confiance Samuel entre les mains du sacrificateur, et celui-ci n'enseigne pas le jeune Samuel dans les voies de Dieu. Je voudrais faire un parallélisme. Notre responsabilité à nous en tant que parents et grands-parents est grande quand nous enseignons nos enfants. Quel enseignement avons-nous, nous qui avons élevé nos enfants, qui sommes chrétiens de longue date, qu'avons-nous donné comme enseignement à nos enfants? Quelle approche de Dieu avons-nous communiqué à nos enfants, à nos petits-enfants? Bien sûr, Nous ne sommes pas responsables et ne culpabilisons pas des choix qu'ont pris nos enfants par la suite. Ce n'est plus de notre responsabilité. Notre responsabilité à ce moment-là est de continuer à prier pour nos enfants afin qu'ils reviennent dans les voies de Dieu, les voies que nous leur avons enseignées. Mes frères et sœurs, il est important en tant que parents, en tant que grands-parents, de donner une bonne direction, une bonne base spirituelle dans l'enseignement, je dirais religieux, mais l'enseignement vis-à-vis de Dieu à nos enfants. Et nous voyons que Élie est passé à côté de la plaque alors qu'il avait la responsabilité spirituelle du peuple et aussi de cet enfant que la mère avait confié. Malheureusement, Élie, quand nous voyons son histoire, n'avait aucune autorité sur ses enfants. Il faisait des choses monstrueuses, ses enfants. Nous voyons, si vous le lisez dans le chapitre 2, nous voyons dans quel état était sa famille et ses enfants. Nous voyons que ses enfants méprisaient les sacrifices que l'on apportait à l'Éternel. Ils se servaient en premier de la viande qu'ils apportaient pour sacrifier à l'Éternel. Ils trompaient leurs femmes, ils couchaient avec des femmes qui n'étaient pas les leurs. Donc ils avaient une vie immorale. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et Élie n'avait pas cette autorité pour leur dire « Mais vous êtes dans un mauvais chemin. » Nous le voyons. Et un homme de Dieu lui a déjà apporté un jugement parce que cet homme ne travaillait pas comme il faut dans l'enseignement vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis du peuple. Il y avait une malédiction qui planait déjà sur cette famille. Et c'est bien triste de voir que cet homme a continué à marcher comme si de rien n'était. Il avait perdu la crainte de l'Éternel. Je me pose parfois la question, nous chrétiens, perdons-nous la crainte de l'Éternel et marchons-nous parfois à contresens? Et Dieu appelle à nouveau Samuel et cette fois notre petit bonhomme a compris la leçon et il sait que c'est Dieu qui l'appelle. Et il lui répond, « Parle, car ton serviteur écoute. » Que ce soit aussi les paroles que nous puissions prononcer quand Dieu nous parle, que nous puissions écouter. Et Dieu a un message terrible qu'il révèle à un jeune garçon. Et nous voyons qu'il encaisse le message sans broncher. Et je pense qu'Élie se doutait un peu de ce qui allait se passer si Dieu allait à nouveau parler à Samuel. Et la nuit se passe et nous voyons que le lendemain, comme d'habitude, Samuel commence son service courageusement, malgré tout ce qu'il avait entendu de la part de Dieu. C'est la première fois que Dieu s'est adressé à Samuel et comme message, c'était quelque chose de très difficile à encaisser. Nous allons voir par la suite. Si vous lisez l'histoire de Samuel, la grande maturité de ce prophète, ça a été un des plus grands prophètes d'Israël. Il était reconnu parce que cet homme savait écouter Dieu et délivrer le message que Dieu lui donnait. Et Élie appelle Samuel pour savoir ce que Dieu lui a dit et il le menace presque des foudres de l'enfer si jamais il ne lui dit pas la vérité alors que Élie savait plus ou moins ce que Dieu avait annoncé à Samuel. Et Samuel ne cache pas le message terrible que Dieu avait prononcé contre Élie et sa famille. Et l'attitude du sacrificateur est déconcertante parce que, comme je l'ai dit au chapitre 2, il avait déjà reçu par un autre homme de Dieu un témoignage difficile à entendre. Il y avait une malédiction qui était prononcée contre lui et sa famille et il n'avait pas rectifié le tir dans sa vie ni dans la vie de ses enfants. Et il n'y a aucun repentir, pas un moment il ne pense à demander pardon, pas un moment il ne s'humilie, Il ne va pas trouver ses enfants afin de leur apprendre qu'un jugement vient de tomber sur toute sa famille. Il ne les supplie pas de revenir à Dieu, d'implorer le pardon de Dieu, qui est lent à la colère mais riche en bonté. Non, il reste de marbre. Il encaisse cela d'une manière stoïque. C'est terrible. Quand on entend Dieu nous parler ainsi et que l'on ne se repent pas, que l'on ne se remet pas en question, il est bon que le chrétien se remette en question. Il est bon que le chrétien puisse faire un examen de conscience et voir si notre vie est toujours conforme à la parole de Dieu, si nous vivons en harmonie avec notre famille, si nous vivons en harmonie avec nos frères et sœurs, avec nos voisins, si nous vivons en harmonie avec Dieu. Et il dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Wow. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Ben ouais. Voilà. C'est comme ça. C'est pas autrement. Élie est fataliste. Dieu l'a annoncé qu'il fasse ce que bon lui semble. Élie, tu peux toujours te repentir. Élie, tu peux te mettre à la prière, demander à Dieu qu'il te pardonne. Car nous avons vu maintes et maintes fois dans la parole de Dieu dire « Dieu se repentit du mal qu'il avait décidé de faire. » Parce que des hommes et des femmes se sont mis à la prière. Quand nous voyons Abraham qui pleure pour Sodome, et Dieu était prêt à pardonner s'il y avait des justes. Et je suis certain que malgré les paroles que Dieu a prononcées, que s'il y avait un repentir profond, Dieu se repentirait du mal qu'il avait décidé de faire à cette famille. Dieu est bon, Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Mais non, le cœur d'Élie s'est endurci de plus en plus. Il a continué à vivre, lui et sa famille, dans le péché. Et nous verrons par la suite que le non-repentir d'Élie et l'inconduite de ses fils conduit à ceci au chapitre 4, à partir du verset 10. Une grande défaite pour le peuple d'Israël. Lisons ceci. Les Philistins livrèrent, à partir du verset 10 du chapitre 4, les Philistins livrèrent bataille à Israël, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande, et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Un Benjamite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège, près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda « Que signifie ce vacarme ?» Aussitôt, l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes. Il ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins, et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Les fils d'Élie vont mourir sur le champ de bataille. Lui-même, à l'annonce de la perte de ce fils et du vol de l'arche de l'Alliance par les ennemis d'Israël, tombera la renverse et se brisera le cou. Quelle triste fin! Quelle triste fin pour quelqu'un qui a servi Dieu et puis qui a perdu sa relation avec Dieu. et que il ne s'est jamais repenti. Quelle triste fin. Frères et sœurs, faisons en sorte que ceci ne nous arrive jamais, que nous puissions vivre et demeurer dans la présence de Dieu, vivre comme lui veut que nous vivions. Nous voyons que la parole de Dieu se réalise. Remarquons que le jugement de Dieu ne s'est pas réalisé tout de suite après la parole de Samuel. Quelques années sont passées depuis que Samuel a prononcé ces mots. Car nous voyons que Samuel est adulte et qu'il sert déjà Dieu en tant que prophète. Je pense que Dieu, malgré les paroles qu'il a prononcées sur Élie et sa famille, a voulu malgré tout patienter. Comme je l'ai dit, Dieu est un Dieu bon et patient, et il attend un repentir de ses enfants. Mais ce repentir n'est jamais venu, que du contraire. Alors la patience de Dieu a ses limites. Et la belle-fille d'Élie était enceinte, et elle était sur le point d'accoucher. Et elle est morte en couche en prononçant ces paroles au verset 21 de ce même chapitre. Par la suite, elle déclara « Puisque la gloire de Dieu a quitté Israël, je donne à l'enfant le nom d'Ichabod, ce nom qui signifie « Il n'y a plus de gloire » était une allusion à la prise du coffre de l'Alliance et à la mort de son beau-père et de son mari. Elle baptise son fils du nom « Plus de gloire ». Quel triste nom. C'est déjà difficile à porter certains noms de famille, mais celui-là devait être aussi difficile quand on l'appelait plus de gloire. Dieu s'était retiré de cette famille. Quel drame. Quel drame de ne pas tenir compte dans notre vie quand Dieu nous parle, quand Dieu s'adresse directement à nous et que nous savons que cette parole est pour nous et pas pour quelqu'un d'autre. Quel drame. Plus de gloire. La gloire de Dieu s'est retirée, sa présence tant bénéfique n'est plus, sur la famille d'Élie et sur Israël. Alors écoutons ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, à partir du verset 12. C'est dans la Nouvelle Alliance, ça nous concerne encore plus. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à l'Église du Seigneur, s'adresse à nous encore ce matin. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu as entendu la voix de Dieu, par n'importe quel moyen, par n'importe qui ce matin, mais tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Et tu sais pourquoi il te parle, pourquoi il te dit telle ou telle chose, parce que moi je ne connais pas ta vie, parce que Dieu connaît, et Dieu nous utilise d'une façon parfois comme il a envie, et il veut nous parler. Et il te dit ce matin, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas tes oreilles, parce que Dieu un jour nous appellera en jugement. Et il nous dira, un jour, je t'ai parlé, je t'ai dit, annoncer un message et tu as fermé ton cœur. Frères et sœurs, le peuple de Dieu s'est souvent révolté à la voix de Dieu et cela l'a conduit dans bien des déboires. L'Église prend souvent des virages dangereux et nous le voyons. Des chemins tortueux et nous nous demandons parfois et même souvent. Mais pourquoi y a-t-il un manque de croissance dans nos églises? Pourquoi nos églises se vident? Pourtant, on a utilisé la vidéo, Internet, Facebook et tout ce que tu peux imaginer. Frères et sœurs, les méthodes modernes, je ne suis pas contre. Mais si ton cœur est fermé, on peut te bombarder de messages sur Facebook où tu peux regarder tous les messages sur Internet, si ton cœur est fermé, il n'y a rien à faire, ça ne rentrera pas. Nos églises se dépeuplent. Notre jeunesse qui a été élevée dans nos églises, et nous en connaissons beaucoup, où sont-ils tous ces jeunes qui ont servi un jour le Seigneur, qui ont chanté dans des groupes de chant, qui ont témoigné, qui ont prié à voix haute, à voix basse, qui ont chanté, qui ont prêché? Nous en connaissons, et ça, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Parce que le cœur de beaucoup se sont fermés. On n'a plus en voulu entendre la voix de Dieu. Parce que c'est trop dur de vivre la vie chrétienne comme Dieu nous le demande de vivre. Parce qu'on veut vivre dans le compromis. Et Dieu ne veut pas le compromis. On dit qu'il faut être tolérant. Mais Dieu ne tolère pas le péché. Hein. C'est nous qui tolérons. Dieu condamne le péché. Même qu'il y a quelqu'un dans l'église, nous voyons l'apôtre Paul, je l'ai livré à Satan, afin qu'il apprenne à ne plus pécher. Waouh ! Mais c'est des paroles dures que Paul prononce vis-à-vis des chrétiens. Mais il les prononce, et nous, nous avons peur de dénoncer le péché dans nos églises, parce qu'il ne faut pas choquer. Il ne faut pas choquer les autres. Ben oui. Alors l'église est gangrénée par le péché, et elle n'entend plus la voix de Dieu, parce qu'elle entend la voix du malin. Voilà pourquoi l'Église ne fonctionne pas toujours. Parce que nous avons ouvert la porte sur le compromis, sur le monde. Il ne faut choquer personne. Mais vivre en conformité avec la Bible, ça devient ringard pour certains. Mais c'est là, la voie de la vérité et la voie de la croissance de l'Église. Et frères et sœurs, l'Église s'égare. Soyons attentifs quand Dieu nous parle, quand Dieu parle à son peuple, afin de ne pas périr spirituellement. Samuel devint grand, le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. C'est ainsi que dans tout le pays d'Israël, de Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, on sut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Le Seigneur continua à se manifester à Silo. En effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Samuel ne mâchait pas ses mots quand il parlait. Et même vis-à-vis du roi Saül plus tard, il n'a pas mâché ses mots. Il lui a dit ces quatre vérités de la part de Dieu. Nous voyons que Samuel fut un des plus grands prophètes. Les paroles qu'il prononçait étaient inspirées par Dieu. Cette nuit où Dieu se révéla pour la première fois à Samuel fut le début d'un grand ministère rempli de bénédictions. Pourquoi? Parce que Samuel écoutait Dieu et rapportait fidèlement ses paroles au peuple. Frères et sœurs, voulons-nous une vie pleine de bénédictions, de victoires? Alors écoutons quand Dieu nous parle. Soyons attentifs à l'enseignement que Dieu nous transmet. Écoutons et partageons fidèlement sa parole. Ce matin, je vous laisse un mot. N'endurcissons pas notre cœur à la voix de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu parles encore aujourd'hui. Tu nous as certainement parlé ce matin de différentes manières à nous d'écouter. Que les paroles que nous entendons, puissions les graver dans notre cœur et que nous puissions, avec ces paroles, rectifier notre voie si elle est mauvaise, aller dans les chemins que tu as tracés pour nous, Seigneur notre Dieu. Bénis ton Église. Seigneur, ce matin, tu nous connais, tu connais nos besoins, tu connais nos points forts et nos points faibles, tu connais nos défauts. Viens nous corriger et à nous d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, afin de laisser ta parole nous pénétrer, nous conduire et nous combler de bénédictions. Amen.